Et pour cette suite de Matin Famille, on reçoit donc le docteur Kawtar Lwadiri qui est cardiologue pour parler aujourd'hui de la fibrillation atriale. Docteur Kawtar Lwadiri, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Madame Kalima, bonjour à tous, merci à vous pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi, docteur Kawtar Lwadiri. Alors en premier lieu, quand on parle de fibrillation atriale, ça veut dire quoi au juste?
Alors, il s'agit d'un trouble du rythme, d'ailleurs, c'est le trouble de rythme cardiaque le plus fréquent au monde et qui est représenté par des battements cardiaques rapides et irréguliers.
D'accord.
Au fait, la contraction du muscle cardiaque passe par un circuit électrique et qui doit se déclencher d'une façon ordonnée et organisée, commençant par le centre régulateur qui se trouve au niveau de l'oreillette ou auricule, justement, d'où l'appellation fibrillation auriculaire. Puis, ça passe donc dans l'intersection entre les oreillettes et les ventricules, c'est-à-dire entre l'étage supérieur et l'étage inférieur du cœur, c'est ce qu'on appelle le nœud auriculo-ventriculaire, et ensuite dans les ventricules pour donner une contraction harmonieuse du cœur. Et puis, ce processus redémarre de la même façon en boucle. Alors,
D'accord.
dans la fibrillation atriale, le centre de commandement est défectueux. L'étage supérieur du cœur ne se contracte pas vraiment, il fibrille. C'est une sorte de vibration inefficace, c'est-à-dire que ce n'est pas une contraction en bonne et due forme.
D'accord.
Et donc, le rythme qu'on a en ce moment-là, c'est juste un rythme d'échappement. En fait, c'est ce qui reste de la conduction nerveuse qui donne le rythme qu'on voit sur l'électrocardiogramme. Également, le fait que cette oreillette ne se contracte pas bien va faire qu'il y a une stagnation de son et du coup une formation de caillots, de microthrombies à l'intérieur. Alors, rappelez-vous bien de ce mécanisme, on va le reprendre plus tard pour parler de complications et traitements.
D'accord. Et docteur Kawtar Lwadiri, comment la reconnaître ou quels sont les symptômes d'une fibrillation atriale?
Alors, des fois, la découverte est fortuite. C'est-à-dire que on est en train de faire un check-up juste comme ça pour s'assurer qu'on est en bonne santé, ou bien on est là pour le contrôle d'une autre maladie cardiaque et on découvre la fibrillation atriale. Alors, ça, c'est lorsque le rythme n'est pas super élevé. Par contre, lorsque la fibrillation atriale est intense, le rythme cardiaque donc dépasse les 110, les 120, on commence à sentir des palpitations. Et là, au fait, chacun va décrire ce ressenti d'une façon différente. Il y a d'autres personnes qui vont dire qu'ils vont sentir une gêne au niveau de la poitrine, d'autres vont sentir réellement la fibrillation telle qu'elle est en disant que c'est un rythme rapide et irrégulier. D'autres vont sentir que simplement c'est une difficulté à respirer, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire une inspiration donc profonde. Alors, juste pour attirer votre attention, normalement, on ne sent pas notre rythme cardiaque. C'est, au fait, notre cœur, il bat constamment, tout le temps, sans arrêt, même quand on dort. Mais on ne ressent rien du tout. Et quand on commence à ressentir des gênes, ça veut dire qu'il y a des problèmes au niveau du rythme cardiaque. Et puis, des fois, malheureusement, on découvre la fibrillation atriale directement devant une complication.
Et ça, donc, les battements, par exemple, et tout, on les ressent au repos, c'est ça? Parce que des fois, on peut bouger, faire des efforts et ressentir voilà, notre rythme cardiaque. Mais quand on le ressent au repos, c'est ça? C'est là où ça commence à poser un problème?
Exactement.
D'accord.
Exactement. Exactement. C'est au repos où on est supposé rien sentir, où on ressent ces palpitations-là.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les causes, docteur Kawtar Lwadiri, de cette fibrillation atriale?
Alors, pour faire simple, toute maladie du cœur à un stade très avancé ou si maltraité peut conduire à une fibrillation atriale, allant de l'hypertension artérielle à l'insuffisance cardiaque, ischémie myocardique, c'est-à-dire l'angor, l'infarctus, les maladies des valves, surtout la valve mitrale. Et puis, des fois, il y a un problème pur du circuit électrique du cœur. Même si le cœur est totalement sain, il y a des fois des problèmes au niveau du circuit, des filaments qui sont surajoutés comme ça d'une façon congénitale, donc au niveau de la boucle électrique, et qui donnent ce genre de troubles de rythme. Des fois, sur cœur malade, des causes extracardiaques peuvent être coupables, c'est-à-dire des situations qui vont faire que le débit cardiaque sera très élevé, comme les problèmes de thyroïde, comme les anémies profondes, des troubles ioniques sévères, notamment les hypokaliémies, les hyperkaliémies.
Donc ce sont en gros les personnes à risque sont celles qui sont déjà atteintes de maladies cardiaques ou d'autres maladies.
C'est clair, surtout les personnes qui sont atteintes de maladies donc valvulaires et qui vont faire que l'oreillette sera dilatée.
D'accord.
À cause par exemple d'un rétrécissement mitral ou d'une insuffisance mitrale, et ça va faire que donc il y a une grosse charge sur cette oreillette et cela va affecter directement donc le centre régulateur, le nœud sinusal.
Et quelles sont les complications dans ce sens, docteur Kawtar Lwadiri? Qu'est-ce que cela peut engendrer sur le long terme? si ce n'est pas traité à
Alors,
temps.
la principale complication et la plus dangereuse d'ailleurs, c'est la thrombose. Alors, on a dit, l'oreille ne se contracte pas bien, stagnation de sang, le sang caillotte, ça forme des caillots. Alors, soit ces caillots-là vont s'agglutiner et former un gros thrombus à l'intérieur du cœur, et ça, c'est quelque chose qui risque de bloquer la circulation interne et d'endommager la fonction cardiaque. Soit ces thrombus-là, ces thrombies qui sont tout petits, vont migrer, vont à la prochaine contraction normale, vont passer dans les artères qui sortent du cœur. Et là, c'est là où ce thrombus va s'arrêter, il va faire un problème. Si ça s'arrête au niveau du poumon, ça va être l'embolie pulmonaire. Si c'est au niveau du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Si c'est au niveau des membres, c'est l'ischémie des membres, etc. Donc là où le caillot va s'arrêter, il va boucher une artère et va causer un problème donc à ce niveau-là. Et puis, la deuxième complication, c'est lorsque cette fibrillation atriale donc n'est pas prise en charge rapidement, le rythme cardiaque continue de s'élever et là, on tombe dans les tachycardies sévères qui peuvent des fois malheureusement conduire à des chocs cardiogéniques, voire des arrêts cardiaques.
Et comment est-ce qu'on la traite?
Alors, le traitement, on a deux rubriques de traitement principalement.
D'accord.
Et là, toujours devant une fibrillation atriale, on se pose deux questions. Est-ce qu'on doit fluidifier le sang ou pas? Et est-ce qu'on doit remettre le rythme cardiaque en rythme normal ou on va accepter cette fibrillation atriale et on va simplement ralentir les battements du cœur? Alors, cela dépend de plusieurs paramètres. Dépend de la date de la fibrillation atriale. Est-ce qu'il est installé nouvellement ou ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est là? Donc, le plus c'est récent, le plus les chances de remettre le rythme cardiaque en rythme normal donc sont importantes. L'état du cœur et l'âge du patient aussi et la présence d'autres maladies. Le plus on a une personne jeune avec le minimum donc de facteurs de risque, pas de grosses maladies, donc on a encore plus de chances à guérir cette fibrillation atriale d'une façon définitive et à revenir à notre rythme donc normal. Et puis le troisième paramètre qui est très important d'ailleurs, c'est le désir du patient, parce que pour remettre le cœur en rythme normal, c'est souvent donc des cardioversions par un choc électrique. Et
D'accord.
donc des fois, si le patient n'accepte pas donc cette conduite, on peut accepter la fibrillation atriale et donner des traitements juste pour ralentir la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle les bêta-bloquants, et aussi fluidifier le sang pour être sûr qu'il n'y ait pas de caillots qui se forment à l'intérieur de notre cœur.
Et docteur Kausal Wardiri, avant de clore notre échange, est-ce qu'on peut parler de prévention lorsqu'il s'agit de fibrillation atriale?
Tout à fait. Alors, on a dit que les principales causes de la fibrillation atriale, ce sont les maladies cardiaques. C'est-à-dire que si ces maladies cardiaques sont bien traitées, c'est-à-dire on contrôle notre tension artérielle, on contrôle les autres facteurs de risque, on essaie aussi de s'éloigner du stress et de l'anxiété, on fait notre suivi et notre traitement des maladies valvulaires, on va justement éviter donc cette fibrillation atriale. Et puis, une chose qui est très très importante, c'est faire le suivi régulier afin d'être toujours en avance par rapport aux complications et éviter les mauvaises surprises. Donc, le plus on est régulier sur notre suivi cardiologique, le plus on détecte ce genre de complications très précocement et on agit rapidement et on les traite d'une façon définitive.
D'autres conseils peut-être, docteur Kautsal-Wardiri?
Alors, toujours, et on ne va jamais cesser de le répéter, avoir une très bonne hygiène de vie, s'éloigner du stress, faire de l'activité physique, avoir une alimentation équilibrée, contrôler donc à partir de 45 ans son taux de sucre, son taux de cholestérol, donc contrôler sa tension artérielle de temps en temps, justement pour être plus dans la prévention que dans le traitement.
Eh bien, c'est sur ce conseil que se referme notre échange. Docteur Kautal Wardiri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Et on se retrouve mercredi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet.
Merci à vous, bonne journée à tous et à mercredi prochain, Inch'Allah.
À mercredi prochain. Ciao, ciao.